en bas à gauche. Enjeux et mobilisation.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville, c'est en 2.3 FM. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors ce matin, on va avoir une entrevue avec Christian qui revient du quartier de East Hastings, un quartier qui est réellement défavorisé dans le coin de Vancouver. Christian, bonjour.
Je voulais savoir un peu de quoi on va parler aujourd'hui.
Ben, c'est ça. Pour commencer, ce que je voulais savoir, en fait, c'est si tu peux nous faire, premièrement, un portrait rapide, en fait, de ce qu'est le quartier. C'est quoi les conditions économiques, en général, du quartier de East Hastings à Vancouver?
Ben, East Hastings est connu comme un des quartiers les plus pauvres du Canada. Probablement le quartier le plus pauvre dans la ville, en dehors des réserves.
Puis la situation...
Sinon, il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent là-bas. Disons que la population est quand même assez visible. Okay. Puis c'est des gens souvent qui ont été déplacés de leur terre, qui se retrouvent dans la ville, concentrés dans une place où les drug dealers, puis le marché de la prostitution domine.
OK. Mais pour nous mettre un peu en situation, quand on est à Vancouver et puis qu'on rentre dans le quartier d'East Hastings, qu'est-ce qu'on va observer?
Ben, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe que, comme un peu partout, il y a des trottoirs et des rues, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vivent sur les trottoirs, autour des différents endroits publics. On observe de plus en plus à Vancouver, en général, que la ville monte en haut, c'est-à-dire qu'il y a des immenses buildings qui sont construits, de condominiums, ce qui amène aussi au déplacement des populations urbaines.
Puis c'est ça, par rapport à ça, dans le quartier de East Hastings, en fait, on peut observer qu'il y a énormément de Premières Nations qui se retrouvent dans ce coin-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent dans ce quartier-là?
Ben, il y a différentes raisons, mais le quartier de Downtown East Side, c'est probablement un des quartiers où les loyers sont quand même moins cher qu'ailleurs, même si les prix sont vraiment, vraiment, vraiment intenses, là. Vancouver, c'est probablement un des endroits au Canada où les loyers sont les plus chers. Ça veut pas dire nécessairement les gens sont plus riches. Au contraire, dans Downtown East Side, les gens sont relativement pauvres. Beaucoup de gens vivent sur l'aide sociale, ou des fois même en bas de l'aide sociale quand ils n'ont pas de chèque.
Puis,
du coup, ici, il y a peu de logements sociaux. Puis, comme je disais, avec les condominiums qui se pointent, ben, il y en a encore moins qu'il y en avait. Les Olympiques là-dedans ont joué un rôle prépondérant pour accélérer le processus de gentrification dans le quartier. Du coup, c'est encore pire. Puis, le flicage s'est intensifié, les caméras de surveillance.
Par rapport à ça, c'est...
Au lieu de... que les gens puissent trouver des solutions pour s'entraider, pour s'auto-organiser, pour trouver des solutions à leurs problèmes ensemble. Bon, ils sont à la fois fliqués par la police de Vancouver, ils sont fliqués par l'État de la Colombie-Britannique, par la ville de Vancouver. Ils sont aussi fliqués de gauche. C'est-à-dire qu'ils reçoivent aussi beaucoup... Il y a le contrôle social exercé par les organismes communautaires qui est vraiment intense là-bas. Puis qui souvent, au lieu de réellement encourager les gens à lutter sur leur propre base, vont amener plus de contrôle social, plus de dépendance vis-à-vis des organismes, des solutions qui vont dire qu'ils veulent négocier avec le gouvernement, mais le gouvernement a montré plus d'une fois qu'il n'y avait pas de volonté de faire des choses vraiment positives pour les populations les plus défavorisées là-bas, particulièrement autochtones. Du coup, entretenir ce mythe. Aussi, ils disent, dans un des derniers rapports du Carnegie Action Project, qui est comme un groupe important là-bas, ils disent, ben, on devrait intégrer des citoyens et des citoyennes à l'intérieur de la police communautaire. Alors, en tout cas, c'est comme essayer d'aménager le territoire avec encore plus de contrôle social, puis même avec cette espèce de légitimité que ça serait positif pour les gens. Mais non seulement ça, ça n'arrivera pas, et à quelque part, c'est tant mieux si ça n'arrive pas, mais je veux dire, c'est aberrant de penser que après tous ces temps-là, le gouvernement a une réelle volonté de faire quelque chose dans ça. Du coup, les populations ne peuvent que se révolter devant leurs conditions vraiment atroces dans lesquelles ils sont poignés tous les jours.
Mais par rapport à ça, est-ce qu'ils réussissent à s'organiser un peu ou... Allô?
Ouais.
Est-ce que justement la population est capable de s'organiser pour un peu contrecarrer l'oppression qu'ils reçoivent depuis l'été?
Ouais, il se trouve qu'à Vancouver, entre autres, c'est la gentrification, puis il y a un manque de loyers, puis tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'immeubles vides. Du coup, le lien en fait entre des populations sur le trottoir puis des immeubles vides, c'est fait à faire. Il y a des gens qui font des occupations. D'ailleurs, il y en a qui le font de manière plus ou moins temporaire, mais ils pourraient faire des occupations qui dureraient beaucoup plus longtemps, mieux structurées, mieux organisées par des gens qui, si on, au lieu d'essayer de les asservir aux volontés des organismes communautaires, les organismes communautaires les servaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils se réappropriaient les ressources pour les mettre à leur service, qui eux s'organiseraient, ça serait déjà vraiment différent.
Puis, bon, justement.
Le système du temps dans son ensemble joue contre les plus défavorisés d'une manière générale, alors c'est juste un exemple encore plus évident, plus visible, qui se passe dans ton école.
Exact. Puis par rapport à ce quartier, justement, on observe qu'il y a plus de Premières Nations qu'il y en a dans d'autres quartiers. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, quel facteur fait que les Premières Nations se retrouvent, en fait, dans ce coin-là? Puis c'est quoi un peu les liens avec la colonisation qui continue même de nos jours?
Ben, il y a un lien direct, là. Je veux dire, le fait que les populations sont déplacées puis se retrouvent dans la concentration urbaine qu'elle entend y cède, et que du coup, on a brisé la psychologie qui les unit à leur territoire, qui fait en sorte souvent qu'on les aliène encore plus qu'ils ne peuvent l'être par la colonisation à la base. Ben, ça fait en sorte que les problèmes psychologiques et sociaux dans les communautés autochtones qui se retrouvent là-bas sont vraiment super intenses. Du coup, ça favorise grandement et la prostitution et la drogue. Et puis, aussi, le fait que les gens se détruisent. Mais disons, on va dire, après ça, on va dire, ah ben regardez, ils se détruisent, ils sont caves, c'est leur problème. Comme on dit ici aussi, je veux dire, partout au Canada, il y a des gens, j'entends quasiment quotidiennement, des gens dire, ah oui, regardez, les Autochtones, ils ne savent pas quoi faire de leur peau, ils se font juste s'auto-mutiler, mais puis ils sont aucunement conscients de comment le processus de destruction causée par la colonisation est super intense. Puis comment ce processus-là, s'il n'est pas combattu dans son ensemble, ben ça va juste se perpétuer. Ça va créer des ghettos pauvres comme le Downtown Eastside, mais aussi comme les réserves. Parce que j'ai regardé hier sur une échelle statistique les endroits les plus pauvres au Canada, puis la plupart sont des Premières Nations. Ben, c'est pas étonnant, t'as pas tant besoin de regarder les statistiques pour ça, mais là, ça fait juste qu'on l'a confirmé. Même d'un point de vue sociologique, que le résultat de la colonisation, ben, ça se vit super intensément un peu partout au Canada, puis dans le Downtown Eastside, c'est comme particulièrement le cas, parce que ils sont pauvres, donc ils se retrouvent là où les logements sont les moins chers, où ils ont une communauté, parce que c'est ça la force du Downtown Eastside, malgré tout, c'est que ça unit les pauvres, au lieu d'être tous disséminés à droite, à gauche, puis à droite, on se retrouve dans un même ghetto. Ça donne une force à ce ghetto-là. Par contre, comme j'ai dit, tous les problèmes magistraux qui sont là sont vraiment intenses. Puis, pour moi, c'est important de saisir ça comme une guerre que le gouvernement il fait subir à sa population. On va souvent dire la guerre est en Irak, la guerre est en Afghanistan, il faut condamner ça. Mais la guerre n'est pas juste en Afghanistan et en Irak, elle est partout. Puis, de toute façon, non seulement les intérêts ici existent pour faire exister la guerre en Irak et en Afghanistan, mais la guerre, elle existe au Canada. C'est une guerre perpétuelle qu'on fait subir aux populations les plus défavorisées, aux autochtones, aux femmes. C'est... Puis on a, là-dedans, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser pour construire notre propre camp. Parce que sinon, on se fait juste se faire détruire. Comme c'est le cas. Puis on voit aussi la complicité de la gauche à Vancouver qui offre des solutions qui vont nulle part. Puis qui font juste perpétuer le problème, en fait.
Ben Christian, un gros merci pour cette entrevue ce matin qui nous explique un peu comment fonctionne la situation dans le ghetto de East Hastings et puis justement l'ethnocide qui continue en permanence par rapport aux Premières Nations au Canada à cause d'un supposé développement économique. Alors, ben je te remercie beaucoup puis on se reparle bientôt.
Oui, OK. Ben, à bientôt.
Bonne journée.